Et nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À quand la fin de l'impunité pour les crimes les plus graves commis en République démocratique du Congo? On en parle ce matin sur l'antenne de RFI à l'occasion des 10 ans du rapport Mapping de l'ONU sur la RDC. 10 ans que ce rapport a été publié, un rapport qui détaille, rappelons-le, des centaines de violations graves des droits de l'homme commises entre 1993 et 2003, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, de possibles crimes de génocide, et pourtant 10 ans après, eh bien, aucun de ces crimes n'a été jugé et les recommandations de ce rapport sont restées lettre morte. C'est ce que dénoncent de nombreuses ONG comme le groupe Lotus. Son président, Dismas Kitenge, est avec nous ce matin. Il répond à vos questions, il dialogue avec vous. Parmi les personnalités qui aujourd'hui prennent de la voix et dénoncent justement cette impunité, il y a évidemment le docteur congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Il est aujourd'hui l'invité de RFI. Ce matin, il affirmait qu'il était incompréhensible que la communauté internationale ait lu ce rapport et que le Conseil de sécurité de l'ONU ait décidé de le mettre dans un tiroir. Sonia Rollet du Service Afrique est également à mes côtés. Vous nous appelez, vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Pourquoi est-il si compliqué de juger les responsables de ces crimes? On vous donne la parole. Bruno, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Vous disiez au Standard, nul n'est au-dessus de la loi, même toutes celles et tous ceux qui sont aujourd'hui haut placés.
Effectivement Juan, comme vous le savez, il y a eu plusieurs centaines de massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Et le rapport Mapping a bel et bien explicité tout cela, mais à notre grande surprise et regret, jusqu'à aujourd'hui, ce rapport est dans les tiroirs. Et donc, je pense que, qui qu'il soit, tout celui qui a été impliqué directement ou indirectement dans ces différentes exactions à l'est de la République démocratique du Congo, doit être traduit en justice. Bien que nous devons vivre en harmonie et en étroite collaboration entre les États, mais je pense que le devoir de la justice doit primer avant toute chose.
Dismas Kitenge, on en parlait tout à l'heure en première partie avec Sonia Rollet sur le fait que l'ONU n'a jamais rendu public l'identité des auteurs présumés de ces massacres. Il existe une liste, dit-on, de 200 personnes. Je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas si ce chiffre est exact. Je parle sous le contrôle de Sonia Rollet. Mais parmi ces 200 personnes, on nous dit qu'il y a quand même aujourd'hui les plus hautes instances dirigeantes, politiques et militaires de certains pays de la sous-région.
Oui, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai puisque, voilà, il y a des généraux. Pour ne donner que l'exemple de Kisangani qui a connu des affrontements entre les deux armées étrangères, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, on connaît des officiers. On connaît des officiers rwandais, les chefs d'état-major de l'époque qui étaient impliqués, qui est venu même après les affrontements pour calmer les jeux, pour retirer ses troupes. Il y a aussi les chefs d'état-major, par exemple de l'armée UPDF, de l'armée ougandaise, qui était venu à Kisangani, tout le monde l'a vu, la presse internationale, les autorités. Il y a aussi du côté rebelle, du RCD. Nous connaissons les officiers généraux qui sont encore en fonction, même dans l'armée congolaise, aujourd'hui dans les plus hautes responsabilités. Donc ces personnes-là, pour donner que l'exemple de Kisangani, sont là, sont connues.
Oui, elles sont connues.
Dans la liste, là, qui ne sont pas sur la liste, mais les victimes, les témoins, les connaissent ceux qui ont été là et qui ont joué un rôle important. Mais c'est la volonté de les poursuivre par la justice congolaise. C'est la volonté également des États membres dans les différents mécanismes de coopération qu'il faut mettre en œuvre pour traquer ces personnes.
Et justement, Sonia Rollet, le fait qu'il s'agisse de personnalités de premier plan, ça rend la lutte contre l'impunité beaucoup plus difficile, j'imagine.
Ah bah oui.
C'est compliqué d'aller lancer des poursuites contre un général, contre un chef d'état-major, contre des personnalités.
Ouais, ou contre des chefs d'État, mais c'est vrai que c'est ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, déjà, c'est quel cours de justice on met en place. C'est pour ça qu'il y a l'idée d'un tribunal pénal international pour le Congo, qui serait comme celui sur le Rwanda, la Yougoslavie et autres, et qui permettrait de juger des acteurs étrangers, parce que la CPI ne peut pas le faire. C'est des crimes qui se passent avant 2003, donc avant le traité de Rome. Mais il y avait, par exemple, pour vous donner l'exemple, il y avait un projet de loi qui était sur les chambres mixtes, qui était la recommandation du Mapping Report, de mettre en place des cours avec des juges qui soient congolais ou des juges étrangers. C'est arrivé jusque à la table donc du Parlement congolais, ça a été rejeté là, et tout le monde savait bien que de toute façon ça passerait pas, parce que il y a des acteurs effectivement de ces deux guerres qui sont au Parlement.
Pourtant il y avait une volonté à la tête de l'État de mettre en place, en tout cas volonté officielle affichée,
de mettre en place ces chambres mixtes. Le Mapping Report a été autorisé par Joseph Kabila, ça fait aucun doute. Du côté du Haut Commissariat, les gens que j'interrogeais me disaient qu'ils avaient été surpris sur le coup, puisqu'ils faisaient partie quand même de la FDL à ce moment-là, et que la FDL de Laurent Désiré Kabila, son père, allait être pointé du doigt. Mais c'est vrai qu'en tout cas, clairement, il a accepté. Non seulement il a accepté, mais les équipes ont pu travailler pendant un an sans être dérangées. Donc oui, régulièrement, il y a eu en tout cas des signes d'ouverture.
On repasse au standard, on parlait de justice, justement. Dieu le veut, bonjour.
Bonjour Juan, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous plaidez, vous, pour la création d'un tribunal spécial pour juger ces crimes?
Effectivement Juan, c'est ça mon idée.
Oui.
Parce que nous sommes sans ignorer que c'est depuis le 2 août 1998 que les troupes régulières rwandaises, ougandaises et burundaises ont envahi certaines parties de l'est de la RDC. Alors, quoi qu'il s'agisse d'une agression caractérisée aussi bien dans les dispositions de la Charte de l'ONU, je pense que la création d'un tribunal pénal international pour la RDC, à l'instar de celui d'Arusha, enverra un message fort indiquant que même les personnes considérées les plus intouchables et qui ne sont pas jusqu'à ce jour inquiétées même par la CPI peuvent un jour être amenées à répondre de leurs actes.
Ouais. Il y a Freddy qui dit à peu près la même chose que vous sur WhatsApp. Il nous dit il faut mettre en place un mécanisme juridictionnel approprié à l'instar d'un tribunal pénal international, comme ce fut le cas pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, le Cambodge, la Sierra Leone. Qu'est-ce qui bloque, selon vous, Dismas Kitenge, pour la mise en place d'un tel tribunal?
Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est la volonté, la demande du gouvernement congolais au Conseil de sécurité. Il faut que le gouvernement congolais le demande. Et à ce sujet-là, il y avait déjà une résolution du dialogue intercongolais de 2003 qui demandait au gouvernement de transition de 2003 à 2006 de le faire. Mais jamais le gouvernement congolais n'a jamais demandé cela au Conseil de sécurité. Deuxièmement, c'est au niveau du Conseil de sécurité, si jamais cette demande arrive, c'est le Conseil de sécurité qui doit prendre une résolution de création. Mais même le débat au Conseil de sécurité sur la possibilité de ces tribunaux-là, même quand il n'y a pas demande de la RDC, ce débat-là n'a jamais eu lieu où il n'y a pas eu un État, surtout permanent, membre permanent du Conseil de sécurité, qui a porté ces projets-là et qui a poussé quand même par divers mécanismes de coopération.
Ah, on a perdu notre invité Dismas Kitenge. On va essayer de le retrouver dans un instant. Sonia Rollet, vous souhaitiez réagir.
Alors,
justement.
On le voit souvent dans les débats quand il y a des coups d'État ou autres. Qu'est-ce qu'on va faire comme transition? Donc là, le choix qui a été fait en RDC, en termes de transition, c'était de laisser les belligérants gouverner le pays et être même candidat après les élections. Et donc le choix a été fait au départ un petit peu de laisser les belligérants diriger le pays, après la transition. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est quand même compliqué de mettre en place une juridiction.
En tout cas, personne n'a déposé sur la table des Nations Unies ce projet de tribunal pénal international qui est défendu aujourd'hui par Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. On se dirige vers quoi en ce moment, Sonia Rollet, en RDC? Est-ce qu'il y a quand même une volonté au sein de la nouvelle équipe dirigeante, en tout cas au sein du nouveau président Félix Tshisekedi, qui n'est impliqué dans aucun de ces conflits dont on parle depuis maintenant le début de la matinale. Est-ce qu'il y a une volonté de poser au moins sur la table de l'Assemblée nationale congolaise un projet de loi pour essayer de créer un tribunal, des chambres mixtes?
Alors, l'année dernière, le président Tshisekedi avait dit qu'il était pour un tribunal pénal international ou un tribunal spécial. Cette année, il a demandé au gouvernement, en fait, d'étudier un mécanisme de juridiction transitionnelle, ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Donc la justice transitionnelle, c'est ça peut être tout, hein, commission vérité réconciliation, des tribunaux et tout, mais l'idée c'est d'arriver à une réconciliation. Le projet qui était à l'étude au gouvernement, le dernier projet que j'ai vu, c'était début septembre, était un projet qui était lié plus à une sorte de commission vérité réconciliation. On appelait ça justice transitionnelle et réconciliation. Donc pas de cours, pas de tribunaux, pas de justice. Finalement, des responsables locaux qui vont en gros dire ce qui s'est passé, qui peuvent consulter un peu évidemment des témoins et autres, mais l'idée c'est plus à l'heure actuelle du gouvernement de établir les faits et c'est tout.
Alors je ne sais pas si Adolphe, qui nous rejoint à l'instant, se contentera d'une commission vérité et réconciliation. Bonjour Adolphe.
Oui, bonjour Anne.
Vous nous avez contacté via les réseaux sociaux, vous souhaitiez témoigner ce matin, vous êtes à Bukavu, vous disiez avoir 10 ans lorsque la guerre a commencé en 1994, et vous avez vécu, dites-vous, des histoires horribles.
Oui, c'est ça. Je suis Adolphe, j'interviens à partir de Bukavu, je salue toute l'équipe, l'organisateur et les auditeurs de cette émission. En fait, le sujet m'intéresse parce que je vivais à Uvira pendant cette période décrite par ce rapport. Et la cité d'Uvira a connu toutes les grandes guerres, notamment celui de l'AFDL et du RCD et consorts. À mon avis, je pense aussi que l'existence de ce rapport de l'ONU sur la RDC publié le 10 octobre 2010 et qui détaille des centaines de violations de graves des droits de l'homme commis en RDC en 1993 jusqu'en 2003, constitue déjà un soulagement pour les victimes directes ou indirectes. Et là, je me mets à la place des victimes, ceux qui ont perdu des proches, des biens, etc. Donc, je félicite l'ONU qui a mis en place ce rapport, car ce rapport pourra peut-être servir à la justice dans ces démarches de lutte contre l'impunité.
Vous dites, Adolphe, excusez-moi de vous interrompre, vous dites ce rapport pourra peut-être servir à la justice. Ça fait 10 ans que ce rapport est sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que vous-même, qui avez vécu ces atrocités, est-ce que vous n'êtes pas impatient? Est-ce que vous ne vivez pas quand même avec un goût amer en vous disant les responsables de ces crimes sont encore vivants? Non seulement ils sont vivants, mais ils continuent à nous narguer puisqu'ils sont encore, pour certains, à des postes de responsabilité.
Oui, ce sentiment est normal. Tout le monde peut le sentir. C'est ce que je voulais dire. Donc, en bref, moi-même, je suis pour qu'une justice soit rendue aux victimes de ces violations des droits humains. Mais je précise bien une justice réparatrice et non une justice de vengeance. C'est-à-dire, en d'autres termes, un cadre de vérité et de réconciliation pour espérer retrouver la paix et le développement.
Mais vous pourriez vous contenter d'une commission et non d'un tribunal?
Bon, le tribunal, oui, parce que ça serait une nécessité par le fait que en suivant les premières interventions qui ont intervenu, il y avait beaucoup de difficultés liées au fait que le gouvernement ne facilite pas les choses. Alors, cette vérité, c'est au niveau de la population, mais cet tribunal au niveau international est aussi nécessaire.
Merci infiniment Adolphe d'avoir pris contact avec nous. On a encore d'autres témoignages, mais ne vous inquiétez pas, on n'a plus que 7 minutes d'émission, mais demain dans la Libre Antenne, vous ne manquerez pas de prendre la parole et de réagir évidemment aux 10 ans de la publication du rapport Mapping. Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, ONG de défense des droits de l'homme, vous pouvez vous contenter d'une commission Vérité et Réconciliation?
Non, il ne suffit pas seulement d'avoir une commission vérité et réconciliation. Quand bien même ça peut avoir, mais il faut que cette commission soit véritablement indépendante. Et là, les deux projets du gouvernement consacrent le manque d'indépendance déjà de cette commission. Il y aura à peu près 11 personnes, dont 3 seulement, de 12 personnes, dont 3 de la société civile, et les 9 autres sont les membres du gouvernement. Donc, il faut que la commission soit véritablement indépendante. Mais à côté de la commission, puisque la commission n'aura pas une tâche judiciaire, il faut vraiment un mécanisme judiciaire, genre tribunal pénal international, genre le chambre mixte spécialisée, pour faire vraiment des poursuites, organiser des procès, prononcer des sanctions et ordonner des réparations judiciaires en faveur des victimes.
Mais
ça, c'est une pédagogie.
J'entends bien, Dismas. Dismas Kitenge, j'entends bien le souhait de voir la création de ce tribunal pénal international. Encore faut-il que les États voisins, les États de la sous-région, la région des Grands Lacs, jouent le jeu et acceptent.
Oui, mais ce n'est pas, ça ne dépend pas d'abord de ces États-là, mais ça dépend d'abord de l'État congolais, la République démocratique du Congo. Ça dépend aussi du Conseil de sécurité des Nations Unies. Puisque même si on n'a pas un tribunal pénal international qui doit être décidé par le Conseil de sécurité, nous pouvons avoir ce qu'on appelle les chambres mixtes spécialisées, c'est-à-dire les chambres qui sont érigées au sein des tribunaux et cours congolais.
Voilà, exactement. Au sein des tribunaux congolais, une chambre mixte avec des juristes congolais et étrangers. Il nous reste 4 minutes. On a évoqué que 2% à peine de tout ce qu'on voulait dire ce matin, tant le nombre de réactions sont nombreuses, mais je voudrais qu'on termine avec Emery. On a rappeler Emery, voilà, Emery. Parce que Emery, il insiste sur quelque chose de très très important, et je donnerai la parole dans un instant à Sonia Rollet et à Dismas Kitenge, sur la nécessité du devoir de mémoire. Emery, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Oui, vous tapez un peu sur la table ce matin en disant ce n'est pas normal, il n'y a aucune commémoration pour toutes ces victimes.
Voilà, donc c'est quand même triste qu'il n'y ait aucune commémoration pour toutes ces victimes. Je suis très content que RFI que vous en fassiez une émission spéciale, et c'est très important. Et donc je disais que le devoir de mémoire est très important. La région de l'Est a subi des atrocités d'ailleurs depuis bientôt une vingtaine d'années. Et il est important que le rapport mapping débouche sur la constitution d'un tribunal international. L'idée de commission, pour moi, je pense que j'abonde dans le sens de la plupart des auditeurs, l'idée d'une commission ne me tient pas. Il est important qu'il y ait un tribunal, que les responsabilités soient déterminées. Et pour ce qui est des réparations, bon, moi j'ai toujours des hésitations là-dessus, mais l'important c'est de déterminer les responsabilités, et l'important c'est que ce genre de tribunal puisse permettre que ces actes horribles ne puissent plus être perpétrés.
Emery, je vous interromps, je suis désolé, vous savez, je suis dépendant, tributaire de cette pendule qui est en face de moi, parfois j'aimerais bien pouvoir la remonter et retarder le temps. Sonia Rollet, le devoir de mémoire, c'est vrai qu'il n'y a pas de commémoration, c'est vrai qu'il n'y a
même pas de stèle.
Voilà, j'allais vous dire, il n'y a pas de plaque commémorative sur les lieux où les crimes ont été commis.
Voilà, il y a quelques plaques, mais quelques très rares plaques dans l'est du Congo et dans les endroits où se sont passés les crimes. Mais c'est vrai qu'il n'y a absolument rien. Il faut s'imaginer que ce sont des millions de personnes qui sont touchées par cette guerre.
Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse.
Qui ont perdu des membres de famille.
J'ouvre une parenthèse, Sonia Rollet, c'est important là. Vous venez de dire des millions de personnes. Je reçois des mails, des réactions Facebook, WhatsApp. Certains auditeurs parlent de 6 millions, de 8 millions, de 10 millions de morts. Est-ce que le rapport mapping détermine, c'est compliqué, ce n'est pas les bons termes, mais le nombre de victimes.
On peut pas le déterminer puisque c'était sur base de témoignages. Donc imaginez par exemple, il y a des prêtres qui disent voilà, on a vu, alors il y a certains prêtres ou certaines organisations qui notaient très précisément le nombre de corps, etc. Donc il y a vraiment des endroits où le compte a été fait. Il y a d'autres endroits où on ne sait pas combien de gens ont été tués, puis après leurs corps brûlés. On n'a aucune idée en fait du chiffre. Tous les chiffres qui ont été faits ont toujours été des approximations et des approximations. Tant qu'il n'y aura pas de véritables enquêtes de terrain un peu partout, plus complètes à approfondir, on ne pourra pas savoir.
Dismas Kitenge, le mot de la fin en 30 secondes. Il y a des marches qui sont prévues aujourd'hui un peu partout en République démocratique du Congo pour réclamer l'application du rapport mapping. Dans votre ville, à Kisangani, la marche a été interdite.
non seulement la marche a été interdite, mais elle vient d'être dispersée tout à l'heure, puisqu'il y a eu des gens, des manifestants qui ont commencé à marcher, à braver cette interdiction qui n'est pas fondée sur les tests de loi, et la police vient les disperser brutalement avec des gaz lacrymogènes. Ça montre aussi ce manque de volonté pour honorer la mémoire des victimes à travers des journées commémoratives, à travers des monuments et aussi des actions de revendication.
Merci infiniment, Dismas Kitenge. Merci, Sonia Rollet. Demain, à ce micro, ce sera Nathalie Amar pour la Libre Antenne. Et je vous